Ben, on va aller de Belle à Beau et à Bulle, tiens, tant qu'à faire. On va parler de ces 10% des personnes aînées au Québec, en fait partout dans le monde, qui pourraient se réclamer des communautés de LGBTQIA+, ou les communautés queer. Ces personnes restent largement invisibles, principalement par crainte de divulguer leur identité, qu'elle soit sexuelle ou de genre. Et depuis plus de 12 ans, il y a un programme qui existe, puis on n'en parle pas assez souvent, puis je pense que la diffusion d'un documentaire récemment présenté par, entre autres, Danny Turcotte. Alors, ce programme s'appelle « Pour que vieillir soit gay » et prend en charge la défense des droits des personnes aînées queer et offre des outils de formation pour mieux, pour les milieux aînés, pour les rendre plus inclusifs. On reçoit donc Julien Rougerie, qui est chargé du programme « Pour que vieillir soit gay » à la Fondation Émergence. Bonjour!
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, c'est la moindre des choses. C'est quand même... cette fondation, donc, Émergence, a été fondée en 2000 par son fondateur, Laurent McKitchen. Et encore, je vais encore vous divulguer des choses, mais vous le savez, j'ai écrit sa biographie, alors je le connais bien. Alors, parlons justement d'abord de cette fondation. Quelle est sa mission?
Alors, la mission de la Fondation Émergence, c'est d'éduquer, sensibiliser et informer le grand public et des milieux spécifiques aux réalités de la diversité sexuelle et de genre.
Alors, plusieurs programmes sont offerts par la Fondation Émergence. On peut faire peut-être une petite liste rapidement?
Oui, ben, il y a tout d'abord la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est la Fondation Émergence qui l'a mise sur pied en 2003.
Oui. On a aussi Laurent McKitchen qui l'a créé.
Exactement. Oui. Tout comme le programme Pour que vieillir soit gay qui nous réunit aujourd'hui. On a aussi le programme Pro Allié qui est spécifique sur les milieux de travail. On a un programme sur les thérapies de conversion et un programme dont on a déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois sur les personnes proches aidantes LGBTQ+.
Oui, parce qu'il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus compliqué parfois dans certains centres de soins, effectivement.
C'est ça.
Mais on va revenir sur le programme Pour que vieillir soit gay. Ça a été fondé en 2009. Parlons un peu de l'origine de ce programme et de son objectif ou ses objectifs plutôt.
Mais l'origine du programme, donc ça a été créé par Laurent McKitchen, le créateur de la Journée internationale et de la Fondation Émergence, certainement à un moment de sa vie où il voyait que les personnes aînées des communautés LGBTQ+, tendaient à s'effacer, même certaines personnes militantes, etc., qu'il avait pu côtoyer, qui avaient tendance à retourner dans le placard, entre guillemets, lorsqu'ils allaient dans des milieux d'hébergement. Ouais. Donc je pense que c'est face à ce constat-là que le programme a été créé.
Et donc, il y a des formations qu'on donne. Ça s'adresse à qui exactement?
Alors nous, on offre donc des formations, des outils de sensibilisation, toute une palette d'outils de sensibilisation. On les offre principalement aux personnes qui œuvrent dans les milieux aînés, les intervenants, la direction, les communications, etc. Toutes les personnes qui offrent des services aux personnes aînées. Mais on vise aussi le grand public et les personnes aînées elles-mêmes.
Parce que parfois, c'est des réalités que les gens du grand public ne comprennent pas. Puis une fois qu'on leur dit « Oups, là, les choses changent un peu hein. ».
Oui, parce qu'il y a une quasi totale invisibilité des personnes âgées LGBTQ+. Même en 2023, à Montréal, dans les milieux d'hébergement, tout le monde est pas mal dans le placard. Quelques exceptions, heureusement. Donc, quand c'est une réalité qu'on ne voit pas, on peut avoir l'impression que ce n'est pas un enjeu réel. Et pourtant, il y a bien au moins 10% de la population âgée qui est dans les minorités sexuelles et de genre.
Et tant qu'elle demeure occultée, ben, elle n'existe pas pour plusieurs, c'est vrai.
Elle n'existe pas, puis ça a des conséquences très graves sur leur bien-être et leur santé.
Ben, je vais sauter la prochaine question. Je vais aller justement là. C'est quoi ces conséquences qu'on peut voir là, quand les personnes doivent retourner dans le placard?
Alors, je vais essayer de faire la réponse la plus courte possible.
Non, on a du temps.
L'invisibilité de ces personnes-là, en fait, ça entraîne un très fort isolement social. C'est des personnes qui sont plus souvent que la moyenne déconnectées de leur famille, qui peuvent avoir moins d'enfants que la moyenne, qui sont aussi plus souvent célibataires parce qu'elles ont vécu une société où c'était interdit de constituer un couple de même sexe ou de vivre dans le genre qui était le sien, où il y avait des conséquences très, très sévères. Donc, c'est des personnes qui sont plus isolées socialement. Puis, en plus de ça, toutes les expériences de rejet, de violence qu'elles ont pu subir, la charge mentale de toujours devoir dissimuler, cacher, taire ou révéler le fait qu'on est une personne LGBT, ça entraîne aussi pas mal de problématiques de santé mentale et aussi de santé physique, puisque les personnes qui sont âgées et LGBTQ+, elles tendent à être moins bien suivies par le milieu de la santé et des services sociaux, vu que c'est des milieux qui ont souvent été hostiles aux minorités sexuelles et de genre. Les choses ont changé, mais depuis assez récemment, mais il y a toujours des approches qui peuvent être hétéronormative, cisnormative, entre guillemets, qui fait que les personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise, qui ne se sentent pas vraiment légitimes à utiliser ces milieux-là, ben, on les évite.
Oui. En fait, moi, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. J'ai été hospitalisé d'urgence il y a à peu près un mois à l'hôpital et On ne m'a pas demandé si j'avais une conjointe ou un conjoint. On m'a demandé s'il y avait quelqu'un de significatif dans ma vie, avec qui on pourrait... Et j'ai trouvé ça formidable. Je dis, ah bon, on a commencé à comprendre. Mais cela dit, les personnes de cette génération-là ont vécu plusieurs traumas, des traumas d'isolement, les traumas même de l'intimidation. Ça remonte loin jusqu'à l'école et se retrouvent donc dans ces milieux qui ne comprennent peut-être pas toujours pourquoi elles sont comme ça.
C'est ça. Et puis, en fait, il y a une ouverture chez les personnes aînées qui est similaire à celle de la société en général. Ça, c'est parfois le piège dans lequel les milieux aînés peuvent tomber. C'est-à-dire, s'il y a un problème d'ouverture, c'est de la faute de nos résidents. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt, en fait, la faute des milieux eux-mêmes, c'est des milieux qui ont une responsabilité d'être proactifs dans leur démonstration d'ouverture. Si on dit, nous, on n'est pas homophobe et qu'on n'est pas transphobe, mais qu'on maintient un tabou et qu'on n'en parle jamais, bah, pour des générations qui ont dû se cacher pour survivre toute leur vie, elles ont besoin d'un signal. Pour peut-être en parler, pour peut-être être elle-même. Donc on insiste vraiment sur la proaction des milieux aînés, des professionnels, des intervenants, pour diffuser leur ouverture, puis aussi mettre quelques bonnes pratiques en place. Là, tu as cité celle notamment d'éviter de genrer le ou la partenaire potentiel d'une personne. Tout ça, c'est des petites choses qui peuvent encourager le déni de ces personnes-là sans qu'on en ait conscience.
J'aimerais qu'on regarde, je sais qu'il y a des réalités, on en a glissé un mot, la réalité, est-ce qu'il y a des chiffres qui nous démontrent là, ce qui se passe dans les milieux de résidence ou les personnes âgées là?
Alors les milieux spécifiques aux résidences, les études sont très difficiles sur ce sujet-là, puisque dans les résidences pour aînés au Québec, la quasi-totalité des personnes LGBTQ+, ne sont pas à l'aise ou en sécurité d'être elles-mêmes. Donc c'est souvent, on nous démarche avec des projets d'études. Oh, on veut interroger des personnes LGBT dans le placard dans des résidences.
Il faut les trouver.
On trouve ça très intéressant, mais c'est très difficile à mener. Par contre, il y a des études sur les populations LGBTQ+, en général, notamment pour tout ce qui est fait d'isolement, de problématiques de santé mentale, de difficultés d'accès aux services de santé. En gros, pour tout ce qui est santé mentale, par exemple, les personnes qui sont âgées et LGBTQ+, elles ont un facteur de risque qui est 2 à 3 fois plus élevé par rapport à la moyenne des personnes aînées du même âge.
Parlons justement de ce fameux documentaire, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, le placard Vieillir gay, qui a été réalisé par Christian Lalumière, qui est venu à mon autre émission que je fais ici à Canal M, avec la participation de Danny Turcotte. On mentionne que dans ce documentaire-là, tu mentionnes qu'avoir contacté 1500 résidences pour personnes âgées au Québec pour leur proposer de la formation.
Oui.
La réponse, c'était quoi?
Oh ben, la réponse, c'est pas de réponse. dans les quelques réponses que j'ai eues, souvent elles étaient plutôt négatives ou c'était pour demander d'arrêter de les solliciter. Alors heureusement, il y a quelques résidences au Québec avec lesquelles on réussit à travailler. Mais souvent, on est face à un déni. Pas forcément, peut-être plus le déni que ces personnes-là existent, mais en fait, c'est plutôt le déni de si ces personnes-là sont dans le placard, si elles se cachent, c'est de la faute de nos résidents, c'est pas du tout de notre faute à nous en tant qu'institution. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile pour les résidences d'accepter, c'est qu'elles ont peut-être un rôle à jouer dans l'épanouissement et l'inclusion des personnes LGBTQ+. Et ça prend de la formation, quelques efforts qui ne sont pas toujours disponibles dans ces milieux-là.
Puis il y a quand même une sensibilisation à faire justement de ces résidents qui ne sont peut-être pas très ouverts à la réalité des résidents LGBT.
Également, ouais.
Fait que ça, c'est un travail que la résidence doit faire. C'est pas, ça ne se fait pas tout seul.
Exactement.
Wow. Donc, vous avez des programmes qui aident les résidences à se mettre au diapason et à mieux comprendre ces réalités-là.
C'est ça, des formations pour les employés, des formations pour les résidents. On a aussi des capsules vidéo, des expositions itinérantes, des dépliants, une filmographie. On a vraiment toute une palette, tout ce qu'il faut pour que les milieux aînés soient plus inclusifs. C'est là, ça existe et ça ne demande qu'à être utilisé.
Bon, j'aime pas mettre des mots systémiques, institutionnels et tout ça, mais est-ce qu'on peut parler qu'il y aurait une homophobie institutionnelle dans les résidences ou dans ces milieux de vie-là?
Ah oui, bien sûr, l'homophobie, la transphobie, c'est quelque chose qui est très largement diffusé dans notre société. Aujourd'hui, c'est condamné d'un point de vue sociétal, les lois ont changé, mais la culture, les mœurs, les approches, elles sont toujours basées autour de la norme de des personnes cisgenres ou des personnes hétérosexuelles. C'est un petit peu, j'aime bien faire le parallèle avec le racisme ou le sexisme, c'est interdit et condamné depuis bien longtemps dans nos sociétés, et on n'en est pas du tout débarrassé. Donc oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité institutionnelle et aussi collective.
Rapidement, il reste que quelques minutes, mais on en a glissé un mot tout à l'heure. Il y a un autre programme qui est pour les prochains temps, puis je trouve que c'est relié. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, là, rapidement, sur ce programme?
Alors, les deux programmes sont reliés, effectivement. C'est nos programmes Famille Choisie. Lui, c'est aussi une offre de formation et d'outils de sensibilisation autour de la question des personnes proches aidantes LGBTQ+, qui donc accompagnent parfois des personnes aînées dans leur processus de soins, qui ne sont pas toujours reconnues, notamment parce qu'elles n'ont pas toujours un lien familial ou conjugal avec les personnes qu'elles accompagnent.
Ben, Julien Rougerie, j'aurais vraiment voulu en parler encore plus longtemps, mais on va certainement se reparler au cours de la saison. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission au quotidien.
Merci beaucoup.
Nous, on retourne en nostalgie.